Et oui, hein, bienvenue à ce premier segment Transcontinent Queer de l'année 2026. Alors, nous allons traverser le pays aujourd'hui d'un océan à l'autre pour prendre le pouls de nos communautés. Entre recul législatif inquiétant et initiatives prometteuses d'espoir, l'actualité queer francophone du Canada est plus dense que jamais. Et pour en discuter, donc, je rejoins Arnaud Baudry à Toronto. Arnaud, bonjour. Et je rejoins aussi Roseva Forge-Jenkins, qui est à Edmonton, et éventuellement Daniel Robichaud à Clare, en Nouvelle-Écosse, qui va se joindre à nous trois, à nous. Alors, bonjour tout le monde. Je vais commencer avec toi, Roseva. Le gouvernement de Daniel Smith utilise la clause de dérogation pour bloquer toute contestation judiciaire de ces lois visant les personnes trans. D'abord, on va rappeler c'est quoi ces droits que l'Alberta retire aux personnes trans.
Oui, alors c'est très global, disons d'une façon très négative, que c'est vraiment beaucoup des gros droits, c'est les traitements de bloquants de la puberté et aussi le consentement parental pour les choix de nom et de pronom des enfants de moins de 15 ans dans les écoles. Donc si un élève à une école veut changer leur nom et pronom juste dans l'école, juste pour dire à leur professeur, pouvez-tu utiliser ce nom et ce pronom? Il faut demander le consentement des parents. Et aussi, les ressources éducatives concernant l'identité de genre et la sexualité dans les écoles. Donc, moi, je travaille pour le Comité franco-queer de l'Ouest. Mon organisme, avant, faisait des ateliers dans les salles de classe pour parler de, tu sais, c'est très... Qu'est-ce qu'on parlait? C'était très simple. C'était juste expliquer l'acronyme de LGBTQA+, qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, on n'a pas encore reçu le consentement du gouvernement pour donner ces ateliers dans les salles de classe.
Wow!
Oui, même, tu sais, les enfants du secondaire n'ont pas le droit de savoir c'est quoi de LGBTQ+, qu'est-ce que ça veut dire. Et aussi, la participation des personnes transgenres dans les sports. Donc, ça va pour tout âge, pour tout le monde. Moi, je connais des personnes, tu sais, qui sont dans des... tu sais, qui font partie des groupes sportifs. Et il faut qu'ils... T'sais, ils disent que seulement les femmes cisgenres peuvent être en compétition avec des femmes cisgenres, seulement les hommes cisgenres peuvent être en compétition avec des hommes cisgenres. Alors, tout accès au sport sont complètement restrictés des personnes trans.
J'ai l'impression qu'on est en train d'assister à une rupture sans précédent du contrat social en Alberta. Est-ce que je me trompe?
Absolument, absolument. C'est un contrat social que, tu sais, en général, que les demandes de la population ne sont pas... ce sont absolument pas importants. Il y avait aussi une grève des professeurs scolaires plus tôt cette année. Et le gouvernement d'Alberta a aussi utilisé la clause dérogation pour... ou dérogatoire pour forcer les professeurs à retourner à l'école. Alors, il n'y a aucune confiance dans le gouvernement de l'Alberta d'avoir, tu sais, vraiment le support de la population à cœur, parce que, tu sais, le support pour les professeurs et leurs droits étaient très forts. Le gouvernement n'a pas écouté et a forcé ce qu'il voulait. Et ils font de la même chose avec le droit des personnes trans. Alors, c'est vraiment un gouvernement pour qui... leur objectif, c'est de pousser leur mandat sans aucune, c'est vraiment faire semblant de tenir les intérêts de la population au cœur.
Bon, présentement, il y a beaucoup d'impacts, notamment là, de tout ça, mais il y a quand même des impacts, puis il y a de la mobilisation. On peut parler du boycott de certaines fédérations sportives. Est-ce qu'on va vraiment assister là, à une mobilisation peut-être de partout au Canada, mais même dans le monde, contre le gouvernement, j'oserais dire... avec des politiques d'extrême droite, là, de Daniel Smith.
J'aimerais voir ça. Je suis vraiment contente que c'est la Fédération du patinage. De ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit c'est que si, c'est le patinage tout autour du Canada et ils ont des différents événements dans différentes provinces et ils ont dit on ne va pas avoir des événements à l'Alberta parce que on veut que les personnes qui participent dans nos compétitions sportives, il y a pas cette même restriction sur les personnes trans en Alberta. Je pense que c'est une excellente façon de montrer de la solidarité parce que il ne punit pas t'sais, les personnes qui veulent qui sont en Alberta qui veulent faire partie de la compétition. Les autres peuvent aller à d'autres provinces, c'est juste qu'ils vont pas avoir des compétitions en Alberta qui vont t'sais amener de l'argent et tout ça à l'Alberta. Je pense que c'est une très très bonne façon de montrer cette solidarité et t'sais, le patinage artistique, on s'est dit ben C'est un monde sportif que, disons, il y a tout le temps eu une grosse alliance avec la communauté queer. Qu'est-ce que moi, j'aimerais voir, c'est voir ça avec d'autres sports aussi. Parce qu'on voit, tu sais, dans la société, il y a Heated Rivalry, une émission de télévision
Oui.
qui montre, tu sais, des personnes queer dans le monde du sport. C'est une grosse, tu sais, c'est la fureur tout partout. Tout le monde est en train d'en parler. Et, tu sais, je pense même une des ligues un des groupes sportifs de hockey a dit, ah, oh, tu sais, merci pour l'attention, c'est super. Et ce qu'ils pourraient faire avec ça, c'est dire, et merci pour l'attention des personnes queer qui regardent cette émission-là. Et voici comment on va montrer la solidarité en parlant de ce qui arrive en Alberta. C'est quelque chose que j'aimerais voir.
Je vais faire intervenir à Arnaud à Toronto. Arnaud, c'est sûr que là qu'on n'est pas dans la même situation en Ontario, mais est-ce qu'on peut avoir des craintes que ce qui se passe en Alberta, ça a des petits ailleurs au pays? Et deuxièmement, est-ce que les communautés queer d'ailleurs peuvent et doivent se mobiliser? C'est deux grosses questions, mais je te laisse aller là-dessus.
Je pense que le contexte politique a une influence, comme le contexte politique aux États-Unis, celui en Alberta, là, ça peut donner des idées aux différents groupes plus conservateurs. Donc, je pense que malheureusement, oui, ça a une influence. Et quand on a, dans notre mouvement, on essaie de mettre en avant les droits de la personne, et là, clairement, ils sont piétinés. Et on voit, alors est-ce qu'il faut une solidarité? Bien sûr qu'il faut une solidarité. Après, ça peut prendre différentes formes. Je pense que la manière dont le gouvernement en Alberta cherche à passer en force, ça montre aussi qu'il y a une méconnaissance des enjeux. Et aussi, je pense que ça montre un décalage entre la compréhension des personnes homosexuelles et la compréhension de l'identité de genre. Parce que là, ce qui est mis en question, c'est vraiment les jeunes trans. Et les choix qui sont effectués par ce gouvernement, en fait, c'est des choix qui vont renforcer les jeunes trans dans leur vulnérabilité. C'est pas des choix qui vont leur permettre de prendre des décisions informées, avec l'appui de leurs parents, avec l'appui des professionnels de santé. Avec l'appui des écoles aussi, parce que l'argument qui est mis en avant, par exemple, pour les écoles, c'est que les parents puissent connaître le choix de leurs jeunes dans les écoles, mais en fait, ça risque de les mettre à risque dans les
Oui.
familles, et en particulier dans les familles où il n'y a pas cette communication, il n'y a pas la sécurité pour que les jeunes puissent exprimer entièrement leur identité de genre. Donc en fait, ça vient renforcer les risques pour les personnes qui sont le plus à risque déjà.
Et je pense qu'il y a quand même un mouvement de boycott. Est-ce que ça peut avoir de l'impact? Est-ce que ça peut se mobiliser, ce genre de boycott qui a commencé quand même? Il y a certaines fédérations sportives là, qui ne veulent plus aller en Alberta.
Mais ça, c'est intéressant. Effectivement, comme disait Roséva, je trouve que c'est une manière de s'opposer. Maintenant, on le voit, nous, là où on intervient dans les écoles aussi, les jeunes sont inquiets. Il y a vraiment quelque chose qui s'exprime. La situation est incertaine, donc ça génère beaucoup d'anxiété chez les jeunes.
D'accord. Je vais aller tout de suite maintenant du côté de Toronto, puisque tu es là et que tu es au micro. Arnaud Franco-Queer a reçu quelque chose comme 100 000 $ de la Fondation Trillium pour soutenir les jeunes de la diversité sexuelle et de genre. C'est quoi les enjeux?
Alors justement, il y a la question des espaces sécuritaires dans les écoles. Pour beaucoup de personnes queer et trans, les écoles, ça peut constituer un espace plus sécuritaire que la famille, en fait. Donc c'est important de maintenir et de continuer à construire ces espaces sécuritaires dans les écoles. Il y a encore beaucoup d'intimidation, de violence qui s'exprime envers les personnes de nos communautés. Donc, le projet, il vise à appuyer l'organisation d'alliances de la diversité humaine, d'alliances LGBTQIA+, dans les écoles. Donc, on travaille là en particulier avec trois conseils scolaires partenaires dans la région d'Ottawa. Et donc, l'idée, c'est de renforcer les échanges entre les jeunes qui font partie de ces alliances et de développer des outils pour leur permettre de faire mieux fonctionner leurs alliances et d'inclure aussi les personnes alliées. Donc, il va y avoir des ateliers destinés aux jeunes, vraiment dans une idée d'empouvoirment pour leur communiquer des informations utiles par rapport à leurs propres droits, comment faire valoir leurs droits dans le contexte des écoles. Et puis aussi un atelier qui sera destiné au personnel enseignant pour les appuyer avec les projets d'alliance et les appuyer aussi pour savoir mieux intervenir en cas de discrimination ou cas d'intimidation homo, bi, transphobe.
Écoute, ça semble répondre quand même à ce qui se passe en Alberta. Il y a Dan qui se joint à nous. Dan, j'aimerais qu'on parle rapidement. Il y a une étude de l'Université Dalhousie qui examine l'impact de la haine croissante sur la santé mentale en Atlantique. Comment est-ce qu'on se constate donc ces impacts-là?
Ben, au Nouveau-Brunswick, ça s'appelle qu'on constate plus d'événements qu'en Nouvelle-Écosse, mais ce n'est pas toujours des grands événements. En Nouvelle-Écosse, c'est plutôt une accumulation de petits événements de vandalisme ou de discours haineux. Puis l'étude vise pas seulement à cataloguer les instants, mais comment les gens réagissent et de rendre aux organismes communautaires ces données-là pour qu'on puisse réagir et répondre aux besoins.
Alors, tout ça semble s'inscrire en fait dans une mouvance. On a commencé en Alberta avec Roséva qui nous disait ce qui se passait avec la clause de dérogation pour enlever les droits des personnes trans. Et puis en Ontario, on essaie d'équiper ou d'outiller les jeunes. Et là, on essaie aussi de documenter parce qu'il y a des conséquences à ça. Je vous lance la question. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel est l'impact de cette haine sur les membres de nos communautés? Je pense qu'on va faire le tour. Vas-y, Daniel, comment ça se vit, cette haine-là, chez les gens?
Ben, je pense que ça impose une prudence. Il y a peut-être des gens qui veulent présenter une opinion ou quelque chose, mais qu'on tombe au silence. Remarque, il y a des manifestations et contre-manifestations souvent sur les sujets touchant des activités ou des festivals LGBTQ+.
J'irai de ton côté, Roséva.
Oui, alors il y a un article qui a été fait à Le Devoir qui
Oui.
parle de ça et qui a un étudiant qui s'appelle Quinn Bergman qui c'est ça dit que quelqu'un a été poussé au suicide par une vague d'haine envers les personnes trans. Et la citation, c'est que ce sont des mesures comme celles prises par le gouvernement qui font perdre l'espoir aux gens. Alors, c'est vraiment, tu sais, perdre l'espoir parce que c'est comme on se sent tellement pas entendu parce que, comme j'ai dit, le gouvernement force ses idées sans écouter. Alors, on se sent comme si il y a, tu sais, on
Il
se
n'y a plus
manifeste,
d'espoir. Il n'y a plus d'espoir, c'est ça, hein?
on fait ce qu'on peut, mais le gouvernement nous écoute pas. Alors, c'est vraiment dur. Tu sais, je connais aussi des personnes trans qui ont vécu dans cette province en tant que personne trans pour 20 ans. Puis cette personne a dit, tu sais, dans toute ma vie, je me sentais tout le temps très sécuritaire. Il dit seulement maintenant, je commence à me sentir, est-ce comment les gens vont réagir vers moi? Alors, c'est vraiment une situation très, très extrême en Alberta.
Et rapidement, je te donne 15 secondes, Arnaud, parce qu'on doit terminer.
Mais écoute, l'impact, il est clair, c'est la charge mentale, c'est une santé mentale fragilisée, qui peut pousser même à avoir des idées suicidaires. Donc l'impact est grave, c'est important. Et même pour des personnes qui, comme je disais avant, là, qui vivent dans des environnements où ils n'ont pas cet appui, où ils n'ont pas la possibilité de s'affirmer, l'école, c'était un lieu où ça peut être un lieu où les personnes pourraient le faire, mais c'est clairement, ça se dégrade.
On va devoir arrêter ici. Merci beaucoup, Arnaud Baudry. Merci aussi à Roséva Falk-Jenkins et merci à Daniel Robichaud. À la prochaine!